Le 4 février, nous étions sur la septième parole de Jésus sur la croix. Et nous avons dit, aujourd'hui, le 4 février, nous allons nous focaliser juste nos pensées pour regarder Jésus quand il a dit ces sept paroles sur la croix. Nous étions sur la septième. Et nous nous sommes focalisés à dire tout simplement d'observer que la façon dont Jésus mourait, c'était une façon unique. Unique. Et nous ne pouvons pas occulter tout ce qui était autour de ce qui s'est passé quand il était mort. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à regarder les événements, mes mots je le pèse, extraordinaires, lors de la mort de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ces faits. Ce n'est pas des faits juste historiques, mais c'est des faits qui peuvent nous donner des encouragements pour notre propre vie. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Donc, je voudrais juste, aujourd'hui, regarder, et vous allez regarder dans votre Bible, hein, je vous donne des passages au fur et à mesure, des événements extraordinaires. D'abord, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Donc ça, c'est la première chose que nous allons regarder quand Jésus était sur la croix, en train de mourir. Nous allons voir qu'il y avait des tremblements de terre. Nous allons voir qu'il nous est rapporté que le voile du temple était déchiré du haut jusqu'en bas, pas l'inverse. Et un dernier fait, quelque chose s'est passé, que les tombeaux s'ouvraient et des saints ressuscitaient, avant même que Jésus ressuscite. Nous allons regarder chacun de ces faits un à un maintenant. Regardez dans votre Bible, hein, Marc chapitre 15, versets 33 à 34, au sujet des ténèbres. Ça c'est le premier fait que nous relevons, rapporté par les auteurs des quatre évangiles, ici Marc. Verset 33 du chapitre 15. La sixième heure, il faut compter 6 plus 6, c'est midi, 12 heures. À midi, le sixième heure étant venu, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la neuvième heure, 9 plus 6, ça fait 15. 15 heures de l'après-midi. Donc, entre midi et 15 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Verset 34. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a des ténèbres sur toute la terre. Parlons des ténèbres. Cela doit nous faire rappeler un événement qui s'est passé plusieurs siècles avant par rapport au peuple d'Israël quand ils étaient en Égypte. Rappelez-vous des dix plaies. Les dix plaies étaient en vue de la première Pâque en Égypte. La neuvième plaie, rappelez-vous, c'était une obscurité, non pas de 3 heures, mais une obscurité de 3 jours. 3 jours. Et quelle était la dernière plaie? La mort des premiers-nés. Retenez bien, 3 jours de ténèbres et suivi par la mort des premiers-nés. Quelle est l'application aujourd'hui pour nous de ces faits? Les ténèbres de 3 heures du calvaire annonçaient que le premier-né, le fils bien-aimé de Dieu, l'agneau de Dieu, est en train de donner sa vie pour les péchés du monde. Mais quand on parle de ténèbres, il faut aussi retenir que les ténèbres annonçaient le jugement de Dieu. Jésus a subi le jugement de Dieu à notre place, à savoir l'enfer que je mérite, l'enfer que chacun de nous méritons pour toute l'éternité à cause de nos péchés. L'enfer a été comprimé pendant 3 heures et Jésus l'a subi à ma place. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Quelles conséquences pour nous? Nous pouvons, même aujourd'hui, sortir de nos ténèbres. Je parle des ténèbres morales, je parle des ténèbres spirituelles. Je parle de ce révolte, ce rejet de Dieu. Nous pouvons en sortir parce que Jésus a vaincu les ténèbres, a vaincu Satan, le prince des ténèbres. Jésus est venu pour apporter la lumière. Lui-même est la lumière. Je suis la lumière du monde, disait-il. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ça, c'est le projet, le désir que Dieu a pour chacun de nous. De nous sortir de nos ténèbres spirituelles, morales, de tous les aspects de notre vie, pour venir à la lumière. Oh, nous n'aimons pas la lumière, nous voulons nous cacher dans nos ténèbres. Refusons de venir à Dieu, je vous en supplie, laissez vos armes, venez à Dieu. Jésus est la lumière, il est venu pour vous délivrer des ténèbres. Deuxième événement, le tremblement de terre. Nous lisons dans Matthieu 27, versets 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit pour dire qu'il est mort. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Je vous montre cette carte. Quelque chose qu'il faut bien retenir. Je me permets de vous le montrer. Il faut que vous sachiez géographiquement que la terre d'Israël se trouve le long de ce qu'on appelle la vallée du Grand Rift. Qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand des fossés d'effondrement du monde. Et il s'étend, hein, vous voyez sur la carte, depuis la Turquie du Sud, à travers la Syrie, la Jordanie et la mer Rouge, et en Afrique de l'Est, la corne de l'Afrique, et au sud jusqu'à Mozambique, et cela sur plus de 9000 km. Cette vallée géologiquement active, même aujourd'hui, d'une largeur de 40 à 60 km et de quelques centaines de mètres de profondeur, a toujours été exposée à des tremblements de terre. Il y a des plaques tectoniques qui bougent et qui se rapprochent les unes des autres et qui créent ces séismes, ces tremblements de terre. Très dévastatrice. Et vous savez, dans la Terre Sainte, en Israël, en Jérusalem, au cours des derniers millénaires, il y avait plusieurs séismes. Ce que je note dans ce qui nous est relevé, en 1837, au nord du pays, le nord du pays a été frappé par une secousse de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Et qu'est-ce que ça a fait? Des milliers de morts. Retenez bien. Il était relevé après, en 1927, un grand tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 qui a secoué l'ensemble du pays d'Israël, particulièrement Jérusalem, Ramallah, Naplouse, Tibériade. Et ça a fait un bilan de 500 morts, 800 blessés, des milliers sans abri, des quartiers rasés. Pourquoi je donne ça? Je viens de citer deux événements importants sur la terre d'Israël à cause de cette grande vallée de Rift dans laquelle se situe géographiquement Israël. Et ça s'étend jusqu'en Turquie, Syrie, vous voyez jusqu'en bas, en Afrique même, de l'Est. Je vous dis maintenant, retenez bien ça. Et ramenons-nous à ce qui nous est rapporté en Matthieu ici. Nous venons de dire que dans l'histoire, chaque fois qu'il y a des séismes, ils sont dévastatrices pour les hommes. Pourquoi alors je vous parle de tout ça? Pour que nous voyions qu'il y a quelque chose d'important à remarquer dans notre passage ici, en Matthieu 27, 51, lors de la mort et trois jours plus tard de la crucifixion de Jésus-Christ, il y avait un tremblement de terre. Vous ne lisez nulle part ailleurs. On n'a même pas des traces que ces tremblements de terre étaient là, sauf la Bible qui nous le rapporte. Et ce qui m'a touché, et j'ai dit, c'est incroyable, ça relève du miracle. Il ne nous est pas raconté par les auteurs des évangiles qu'il y avait des morts. Que ça a été dévastatrice. Quand il y avait ces tremblements de terre, lors de la mort de Jésus, et trois jours plus tard, lors de sa résurrection. Pourtant, ce pays est sur la ligne de la zone sismique le plus dangereuse au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça relève du miracle. C'est Dieu qui a contrôlé ces deux tremblements de terre pour que ça ne engendre aucun miracle, aucune conséquence dévastatrice. Ça, c'est quelque chose, quand je vois ça, c'est ce qui est rapporté, la Bible uniquement. Même pas les auteurs des pères de l'Église n'ont mentionné ces choses. C'est pour dire très simplement qu'il y a un miracle ici. Donc cela nous enseigne que les phénomènes naturels ne se génèrent pas indépendamment de leur créateur, le maître et le souverain. Ils sont sous le contrôle de Dieu, il peut créer les séismes, il peut aussi les arrêter. Dieu fait trembler la terre comme il peut la garder inébranlable. Rappelez-vous de ce que Paul disait dans Actes. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, il est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est le maître, celui qui contrôle. Job lui-même, Job 9, versets 5 et 6. Il n'est pas là. Il déplace les montagnes sans qu'elles le sachent et il les renverse dans sa colère. Il fait trembler la terre sur sa base. Et ces colonnes sont ébranlées, il parle au soleil et le soleil ne paraît pas. L'obscurité sur toute la terre. Donc je déduis tout simplement, c'est magnifique. Ce qui s'est passé là, c'est pour nous montrer que la terre existe pour servir les intentions de Dieu, son créateur et son maître. Il la soumet à sa volonté, fait disparaître les montagnes, il secoue la terre et l'ouvre par des séismes quand il veut. Et il contrôle les conséquences même de ce que ça peut engendrer. J'ai dit, il fait ouvrir la terre par des séismes quand il veut. Juste hein, pour vous montrer, c'est pour ça que j'ai mis nombre, hein, ici, chapitre 16, verset 27 à 32. Cet épisode de la révolte de Corée, hein, c'est un bel exemple. Lorsque Corée, Dathan et Abiram, hein, ils se sont révoltés contre l'autorité de Moïse. Dieu ne pas laisser ces choses-là sans le traiter. Et Dieu les a punis en les condamnant à mort, eux, leur famille et tous leurs biens. Comment? Dieu a fait ouvrir la terre. Nous lisons au verset 32 du chapitre 16 de Nombre. La terre ouvrit sa bouche, les engloutit, eux, leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Oui, Dieu peut agir sur les phénomènes naturels, les séismes, hein. J'ajoute aussi les ouragans, les inondations, les catastrophes naturelles qui se produisent sur la terre pour parvenir à ses fins. Est-ce que c'est votre théologie? Est-ce que c'est ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'il peut aussi empêcher ces phénomènes naturels à ce qu'ils soient dévastatrices, comme c'est le cas lors de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le texte nous dit, et je vous invite à regarder Matthieu 27, 54. Dieu contrôle ces phénomènes dévastatrices comme il veut, pour que qu'on le reconnaisse sa véritable identité. Pour qu'on reconnaisse que la mort de Jésus, ce n'était pas une mort ordinaire. Cette personne, ce n'est pas une personne ordinaire. Il est plus que cela. Et ces phénomènes étaient là pour authentifier ce fait. Et nous, il nous est rapporté le témoignage d'un Romain, un centurion, et des soldats qui étaient là pour garder le corps de Jésus. Nous lisons Matthieu 27, 54, « Le centenier, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. » Et dire, regardez la conclusion, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Assurément, cet homme était fils de Dieu. Ils voyaient ces phénomènes surnaturels qui étaient arrivés. Ils ont déduit que cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui. Il est le Fils de Dieu. Que vous dites de Jésus aujourd'hui? Voulez-vous croire en lui? Qu'il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur. Voulez-vous l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur? Vous n'avez pas besoin de spectacle comme le centurion a besoin de voir surnaturel. Venez à lui par la repentance et la foi uniquement. Il a tout accompli pour vous, pour votre salut. Troisième événement que nous relevons lors de la mort de Jésus-Christ, le voile du temple était déchiré de haut en bas. Il faut se rappeler que le voile séparait ce qu'on appelle le lieu saint du lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est uniquement pour le souverain sacrificateur. Et il peut y entrer qu'une fois par an, le jour des grandes expiations. Relevons les faits qui nous est rapporté ici. D'abord, la déchirure a eu lieu à 15 heures. Nous lisons dans Marc 15, 38, dans Luc 23, 45, dans Matthieu 27, 51, voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la déchirure a eu lieu à 15 heures, au moment de l'offrande de l'encens ou le parfum du soir. Deuxième chose, donc le voile du temple déchiré de haut en bas, pour dire que ce n'est pas la main de l'homme qui l'a déchiré. C'est un miracle que Dieu lui-même est intervenu pour déchirer du haut vers le bas. Pour dire que maintenant, l'accès à Dieu est possible. Dieu lui-même qui a ouvert l'accès pour que nous puissions venir dans ta présence. Oui, parce que le voile avait séparé l'homme d'avec Dieu, mais maintenant, par la mort de Jésus, il a ouvert pour le monde entier un nouveau chemin qui nous mène à la vie, qui nous amène vers Dieu. Depuis ce jour, Jésus remplaçait le temple. N'est-ce pas lui qui disait « Je peux détruire le temple et le rebâtir en trois jours » Matthieu 26, 61. Non seulement il a remplacé désormais le temple, mais aussi il est devenu le grand prêtre de son peuple. Le grand souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous aujourd'hui? Le déchirement de ce voile, image du corps humain revêtu par Christ, c'est ce que nous rapporte Hébreux 10, 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le déchirement de ce voile, image du corps humain revêtu par Christ, signifie qu'une route nouvelle et vivante et frayée permet à tous les croyants d'accéder à la présence même de Dieu sans autre sacrifice que celui de Christ et sans autre sacerdoce que le sien. En ce moment-là, grâce à la mort de Jésus, tout être humain avait maintenant accès à Dieu sans avoir recours au sacrifice rituel lévitique. Il faut tuer un animal, au sacrificateur, il faut peser les mains. C'est terminé, ça devient caduque, ça n'a plus lieu d'être à partir de ce moment où Christ est mort et ressuscité. Oui, on n'a plus besoin de ces sacrifices rituels. Jésus a ouvert maintenant une nouvelle route, le chemin par lequel il faut passer par lui. C'est le début de la nouvelle alliance en son sang. C'est ce que nous allons célébrer à l'instant. Magnifique ce que Dieu a fait. Ces miracles n'étaient pas seulement pour nous impressionner, mais ce miracle accomplit quelque chose de si profond et vital pour l'être humain, qu'il puisse être réconcilié avec Dieu. Et que Dieu a ouvert lui-même le chemin par lequel nous pouvons venir à lui par son Fils, qui est mort, ressuscité pour nous. Quatrième fait que nous relevons, les tombeaux s'ouvrent et des saints ressuscitent. Matthieu 27, 52 à 53. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après, soulignez bien, la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Avez-vous remarqué, bien que ces tombeaux se soient ouverts au moment de la mort de Christ, et que des croyants sont ressuscités, mais les corps n'en sortirent qu'après sa résurrection à Jésus. Ces saints se montreront à Jérusalem après la résurrection de Christ. Pourquoi ce détail est-il si important? Ce détail est si important dans le plan de Dieu. Parce que nous lisons, nous connaissons un peu plus loin par l'apôtre Paul en Colossiens 1, 18. Il dit, il est la tête du corps de l'Église en parlant de Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Il faut bien clarifier. Il est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire quoi le premier-né? Ce qu'il ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire que Jésus est le premier à ressusciter. Car ça n'était pas le cas. Lazare. Jésus l'a ressuscité. On vient de lire. Beaucoup des croyants, j'imagine de l'Ancien Testament, qui sont ressuscités. Pendant que Jésus est mort, il n'a pas encore ressuscité. Vous voyez? Donc ça ne veut pas dire ça qu'il est le premier à ressusciter. Il faut bien retenir quand la Bible parle de premier-né, ça veut dire il est le plus important. Ça exalte une position unique de Jésus. Il est le plus important de tous ceux qui sont ressuscités, car sans sa résurrection, il n'y aura aucune résurrection possible pour les autres. Premier-né veut dire sa suprématie au premier rang. C'est très important, car sans sa résurrection, nous ne sommes pas assurés de notre propre résurrection. Et Paul clarifie encore dans 1 Corinthiens 15, versets 20 et 23, mais maintenant, ce n'est pas le maintenant dans le temps, c'est mais maintenant dans l'argumentation. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Mais chacun en son rang. Je dois souligner chacun en son rang. Christ comme prémisse, dans le rang, lui, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. J'aimerais juste préciser, quand Paul parle de prémisse, c'est très important. Paul connaît très bien l'Ancien Testament. Et quand il parle des prémices concernant ceux qui sont morts, Christ, le premier rang, le premier des prémices. Il fait allusion à quelque chose que Dieu a donné d'une manière figurative et d'une manière symbolique que le peuple, depuis des siècles, doit le célébrer, la fête des prémices. Pour cela, il faut aller dans Lévitique 23, notez-le, versets 9 à 14. Je vais relever tout simplement, on va se mettre dans la peau d'un juif, hein, au temps de l'Ancien Testament, à l'époque de Lévitique. La fête des prémices, quand il fait allusion ici dans 1 Corinthiens 15. Cette fête doit être célébrée uniquement que lorsque le peuple arrive en Canaan. Ouvrez votre Bible, Lévitique 23, verset 10. Je vous pose la question, mais pourquoi? Ils sont dans le désert maintenant. Pourquoi la fête des prémices ne sera célébrée que quand le peuple arrive à Canaan, la terre promise? Parce qu'on ne peut pas avoir des moissons dans le désert, faites de sable. Donc on ne peut pas le célébrer tant qu'on est encore dans le désert. Il faut attendre l'arrivée dans la terre promise. Lisez Lévitique 23, 10. Hein. C'est seulement quand on arrive à Canaan qu'on peut le faire. Mais Dieu t'a quand même donné déjà les choses qu'il faut faire en les préparant quand ils arrivent là-bas. Deuxième question, pourquoi prémisse? Nous venons de dire, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et en venant à Lévitique, mais pourquoi prémices? Parce que, vous savez, il y a plusieurs récoltes qui arrivent les uns après les autres en Israël. Et ici, quand il parle des prémices dans Lévitique, on parle des prémices de l'orge. C'est les premiers qui arrivent dans la récolte, la moisson. Et ici, prémices, parce que la moisson n'est pas prête. Mais on appelle prémices parce qu'il y a quelque chose qui fait que des plantes ont dévancé un peu les choses, si je peux dire. Ils arrivent à maturité de manière précoce. C'est pour ça qu'on l'appelle prémices. Et Dieu dit, en tant que juif, chacun doit amener une gerbe. Il va aller dans les champs, il va recueillir. Ah, celui-là déjà est précoce, il est mûr. Vous avez déjà les graines d'orge dessus et un petit gerbe. Il faut amener au sacrificateur. Donc, en tant que juifs, mettons-nous dans leur peau. Nous devons donc apporter une gerbe des prémices. C'est quelque chose, des plantes qui arrivent à germer plus tôt que les autres, que la grande moisson. Précoce. Prémice. Et nous devons amener une gerbe au sacrificateur. Et qu'est-ce que doit faire le sacrificateur? Lisez Lévitique 23, je vous ai donné le passage. Le lendemain du sabbat, attention, le lendemain du sabbat, c'est quoi? C'est la fête des pains sans levain. La deuxième fête après la Pâque. Et donc, le lendemain du sabbat, le sacrificateur doit agiter cette gerbe dans le temple devant Dieu. Pourquoi? C'est une leçon symbolique, mais d'un sens spirituel très profond. Pourquoi? Parce que cette gerbe agitée devant l'Éternel était acceptée en signe de reconnaissance à Dieu, parce que Dieu donne la vie, il fait germer les plantes, et il faut lui donner à Dieu en reconnaissance que si nous avons les prémices, c'est parce que c'est Dieu qui a fait qu'elles sont là les prémices. Et reconnaissance à Dieu. Ça, c'est la leçon. Mais, d'un autre côté, cette gerbe aussi, c'est un gage donné par Dieu parce qu'il était capable de faire sortir précocement les prémices. Il assure que beaucoup de moissons va suivre. Vous voyez, la prémisse était un gage pour assurer que la moisson va venir. Toute une récolte va venir. Ça, c'est le sens qu'il faut donner ici. Alors, quand le prêtre agitait la gerbe des prémisses devant le Seigneur, c'était un signe que la récolte tout entière appartenait au Seigneur. Et c'est pour cela, vous savez, si on a dit que c'est montrer la reconnaissance, ça veut dire qu'on fait confiance en Dieu. Si moi, juif à l'époque, je ne fais pas confiance en Dieu, je ne veux pas donner les prémices, je veux les manger parce que j'ai peur qu'il n'y aura plus rien à manger. Vous le faites comme moi, n'est-ce pas? Mais si vous faites confiance en Dieu, vous dites les prémices, je donne à Dieu parce que je sais qu'il va pouvoir pour toute la récolte à venir. Et donc je vais le manger, je vais obéir, je vais donner au sacrificateur et j'obéirai à ce que Dieu dit. Ça, c'est le témoignage de la foi. Oui, en tant que juif, nous disons, toi qui nous donnes le premier fruit, va nous donner le reste de la moisson. Alors, on te donne à toi, Seigneur, par le biais du sacrificateur, pour montrer notre confiance. Parce que si ce n'est pas le cas, on aurait mangé les prémices. Par peur qu'on se retrouvera sans rien à manger. Et oui. Donc c'est un témoignage de la foi que Dieu pourvoira. Quel est le lien avec ce que Paul dit maintenant que nous avons compris ce que c'est une prémisse? La fête des prémices, la troisième fête, Pâques, fête des pains sans levain, et le lendemain, fête des prémices, que nous, je viens d'expliquer. Quel est le lien maintenant avec nous dans l'Ancien Testament? Dans le Nouveau Testament, comment ça s'applique? Ça s'applique par le fait que Jésus est venu il y a plus de 2000 ans. Il est l'accomplissement de cette fête des prémices. Comment le comprendre? Il faut le comprendre dans le sens que la résurrection de Christ est symbolisée par la gerbe qu'a jeté le sacrificateur. Le lien que Paul fait, vous voyez bien, Christ est ressuscité des morts, les prémices. Les prémices étaient des gerbes, mais ça représente Christ ressuscité, le plus important. Prémices, le premier-né. Oui, la Bible dit que le Christ est celui qui accomplit ce que Dieu avait promis dans cette fête des prémices. Parce que, comment on peut le comprendre? Dieu a arraché de la mort Jésus-Christ. Sa résurrection est le gage par lequel Dieu dit, j'ai donné les prémices et je donnerai certainement la moisson. En parlant de la résurrection pour Jésus et pour nous. Vous avez compris le lien? Dieu a arraché de la mort Jésus-Christ, le prémisse. Ça, c'est un signe avant que beaucoup de moissons suivront. Et nous lisons que pendant que Jésus est mort, beaucoup sont ressuscités. Ces fruits, la moisson en partie qui arrive déjà. Magnifique. Quand Jésus est ressuscité des morts, c'est la garantie divine que nous, qui faisons partie de cette récolte future, ressusciterons aussi un jour. Et vous savez, ça c'est quelque chose qui doit nous impacter aujourd'hui, qui doit nous bouleverser notre vie aujourd'hui. Paul fait une application dans Romains 8, versets 22 à 23. Notez ça. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Ah, phénomène naturel. Ici, la création tout entière soupire, souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous, les êtres humains, croyants, qui avons les prémices de l'esprit. À nouveau, prémices. Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Quand nous avons compris la fête des prémices, le sens que ça a pour nous, ça a une implication directe. Ce matin, peut-être vous soupirez dans votre corps. Vous soupirez dans votre psyché, dans votre âme. Vous soupirez physiquement par la maladie, par les douleurs, par les insomnies, par l'inquiétude, par plein de choses. Eh oui, mais Paul dit, rappelez-vous des fêtes des promesses, Dieu nous a donné déjà la prémisse de l'esprit. Il faut regarder à ça, mes frères et sœurs. Nous avons les prémisses de l'esprit, même si nous soupirons. Qu'est-ce que cela veut dire? nous soupirons tous après une meilleure vie. Aujourd'hui, nous soupirons parce que nous souffrons dans cette enveloppe qu'est notre corps, dans nos âmes, au profond de nous-mêmes. Mais quand je pense que Jésus est ressuscité, c'était la marque que ça indique que moi aussi je veux ressusciter plus tard. Ce que je peux endurer dans ce corps aujourd'hui, je peux le supporter en ayant la foi totale qu'il y aura une fin à cette souffrance. Nous soupirons, mais il y aura une fin. Je peux le supporter sous cette perspective-là. Oui, après cette vie, il y a une vie meilleure, sans péché, sans maladie, plus de mort. Il y aura un monde glorieux, un corps glorieux qui n'est plus sujet à la maladie ni à la mort. Et Paul dit, Dieu nous a donné déjà les prémices de cette vie céleste en nous donnant son esprit dans notre cœur. Juste les prémices, mais c'est suffisant de le savoir, mais qui sont le gage que nous aurons le reste. Croyez-vous en cela? Si vous regardez ce qui peut arriver dans votre vie sous cette perspective, vous ne pouvez qu'être joyeux. Ce n'est qu'un passager. Je peux le supporter. Jésus, les prémices. Il est mort, il est ressuscité. Et moi aussi, je veux passer par cela. Ce que je peux endurer aujourd'hui n'est, je ne dis pas en négligeant ce que nous pouvons souffrir. C'est peu par rapport à ce que Dieu nous a donné déjà. Il a donné le gage, l'assurance que le Saint-Esprit en vous assure que vous serez aussi dans ce monde de gloire pour toute l'éternité. Nous souffrons un peu de temps. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à la gloire à venir? C'est ça qu'il faut avoir en perspective. Et c'est en ce sens que ça nous aide les fêtes des prémices. Ne plus en emmenant des gerbes, mais en regardant le sens spirituel que Dieu veut que nous saisissons. Vous avez l'Esprit de Dieu, c'est un gage. Et vous pouvez être joyeux malgré que vous souffrez. Parce que c'est une anticipation de la gloire à venir. Qui nous attend tous. Je vais terminer. Alors, retournons. Tous ces quatre événements, lors de la mort de Jésus, a un impact aujourd'hui dans notre vie spirituelle. D'abord, les ténèbres. Nous avons dit que Jésus a vaincu les ténèbres. Il est la lumière. Mais qu'est-ce que nous attendons de rester dans les ténèbres? À nous cacher dans les ténèbres, voyons à la lumière. Laissez la lumière nous transpercer. Laissez Jésus changer notre vie. Mais encore, il faut venir par la foi en lui. Deuxième chose, les événements surnaturels, cosmiques et terrestres, je dirais, étaient au service de la mort et de la résurrection, comme un potent indicateur pour nous révéler la véritable identité de Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est souverain sur la vie, sur la mort, sur les séismes, sur les ouragans, sur tout ce que vous voulez. L'application. Faites-vous confiance en lui. Faites-vous confiance dans sa souveraineté. Ça veut dire qu'il est au contrôle de toute chose qui peut survenir dans ma vie, même les séismes. Par la maladie, par la perte, par le cancer, tout ce que vous voulez. Quand ça vient bouleverser ma vie. Croyez-vous aujourd'hui que Dieu l'a permis pour notre bien, pour votre bien? Croyez-vous que s'il l'a permis, c'est selon sa volonté, parce qu'il vit quelque chose de meilleur pour nous? Oui, comme je vous ai dit, ces deux tremblements de terre, vous n'avez aucune trace dans l'histoire, dans les faits scientifiques, comme s'ils n'étaient pas là, pourtant ils étaient là. Mais Dieu a utilisé pour ses fins, pour sa gloire, pour que le regard se tourne vers celui qui était sur la croix entre les deux brigands, qu'il n'est pas n'importe qui. Qu'il est un homme extraordinaire. Plus que cela, il est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie. La voile déchirée de haut en bas, c'est pour nous donner l'accès. C'est possible de venir vers Dieu maintenant. Est-ce que vous voulez l'accepter comme le Seigneur et Sauveur de votre vie? Thierry, tout à l'heure, nous mettrait le passage du Hébreu. L'accès est ouvert. L'accès au trône de la grâce. Pour vous, si vous êtes en Jésus-Christ. 24 heures, 20 sur 24, Dieu est accessible par la prière au trône de la grâce. Que cherchons-nous de mieux? On a tout. On a tout en Jésus-Christ. Alors, cet accès au trône de la grâce, est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous êtes celui ou celle qui est à genoux devant Dieu, devant sa présence? C'est ça ce que Dieu nous demande. On a cet accès. Ne le laissez pas juste comme ça. C'est quel privilège d'avoir l'accès auprès de Dieu. Non pas seulement pour présenter nos requêtes à nous, mais pour intercéder pour les uns et les autres. Pour ceux que nous n'avons même pas vus ni connus. L'apôtre Paul priait pour beaucoup de croyants qu'il n'a jamais vu de sa vie. Mais il les présentait devant Dieu, devant le trône de la grâce. Oh, mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu attend de nous dans nos prières. Je termine sur l'exemple du centurion. Assurément, il est le Fils de Dieu. Le centurion et les soldats qui étaient sous son ordre, voyant cela, a déclaré solennellement de la bouche des païens que Jésus est le Messie. Et pourtant, les juifs religieux qui connaissaient bien l'Ancien Testament l'a rejeté. L'exemple du centurion, nous devrions le suivre. Nous devons aujourd'hui témoigner, proclamer à notre tour la bonne nouvelle de la mort de Jésus pour nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et la résurrection des saints, survenant après la résurrection de Jésus lui-même, est un gage de la moisson à venir, que nous allons être ressuscités corporellement. Oh, j'attends ce jour. J'attends ce jour. Mais cette espérance doit motiver ma vie présente chaque jour pour le servir. Tout mon possible, du meilleur que je peux, à vivre pour sa gloire. Nous sommes créés pour glorifier Dieu, à vivre dans la pureté, dans l'attente de le rencontrer, pour ne pas avoir honte. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est la moisson à venir. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et qu'est-ce que ça a à faire? Dit Paul. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.